Voici l'Europe, Anissa El Jabri, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et RFI pour cette année 2019 pleine de défis à venir pour l'Union européenne, avec un Brexit qui tourne au vinaigre, des élections européennes qui approchent et des populistes qui ont commencé les grandes manœuvres. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un grand européen et un grand diplomate aussi de choc, Pierre Vimont. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Bonjour Pierre Vimont. Alors vous êtes aujourd'hui chercheur associé à la Fondation Carnegie Europe, membre aussi de l'ONG Leader pour la paix. Vous avez une longue carrière de diplomate. Vous avez notamment été ambassadeur de France à Bruxelles entre 1999 et 2002, secrétaire général exécutif du Service européen pour l'action extérieure, c'est comme ça qu'on dit. Précédemment aussi directeur de cabinet de tous les ministres des Affaires étrangères de Jacques Chirac. C'était entre 2002 et 2007. Et puis en 2017, comme une soixantaine d'autres diplomates, vous avez pris la parole et vous avez apporté votre soutien à Emmanuel Macron.
On commence début janvier nécessairement par cette présidence roumaine de l'Union européenne. Elle est détenue, cette présidence tournante, depuis le 1er janvier par la Roumanie, sur fond de polémique. Le patron de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a d'ailleurs demandé au gouvernement de Bucarest de respecter l'état de droit et d'abandonner une loi amnistiant les faits de corruption au plus haut niveau de l'État. Pourquoi ?
Parce que le phénomène de corruption actuellement dans un certain nombre d'États membres de l'Union européenne est un phénomène qui se répand et se développe de plus en plus et qui est certainement un angle sous lequel on peut obtenir de la part des populations et des opinions publiques dans ces pays-là pas mal de soutien. Si vous voulez, c'est quand même très intéressant, vous citiez la Roumanie, qu'il y a quelques mois, lors de grandes manifestations contre ce phénomène de corruption, les manifestants étaient arborés des drapeaux européens et manifestaient au nom de l'Union européenne.
Mais c'est embêtant qu'elle prenne la présidence, précisément ?
Non, je veux dire, ce sont nos institutions qui le prévoient. Et donc, il faut accepter le principe que chaque État membre, à tour de rôle, prend la présidence. Mais ça peut être aussi l'occasion de faire passer un certain nombre de messages à un moment où les opinions publiques dans ces pays-là suivent avec intérêt les affaires européennes. Nous venons de sortir de 6 mois de présidence autrichienne qui, en matière d'immigration, tient parfois des positions contestées, ou en tout cas contestables. Et donc là aussi, ça a été
le gouvernement avec l'extrême droite au pouvoir.
Oui, tout à fait, vous avez raison, mais c'est un phénomène que l'on voit se développer de plus en plus au sein de l'Union européenne. Donc c'est pas mal de pouvoir, à l'occasion de 6 mois de présidence d'un pays, de pouvoir rappeler un certain nombre de valeurs et de principes auxquels l'Union européenne est attachée.
Alors justement, vous parlez de ces messages. Aujourd'hui, la Pologne et la Hongrie sont poursuivies pour dérive autocratique. La présidence roumaine, qui elle-même pas particulièrement un bon élève, n'a pas prévu de l'inscrire à l'agenda. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Qu'on a renoncé aujourd'hui en Europe à faire respecter l'indépendance de la justice, l'indépendance de la presse ?
Non, mais il faut prendre chacun de ces dossiers selon les problèmes qui se posent. Pour le moment, avec la Roumanie, la principale question qui se pose est celle de la lutte contre la corruption et le fait que le gouvernement roumain ne semble pas mettre toute l'énergie nécessaire. En Pologne, en revanche, c'était un problème d'indépendance de la justice. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut prendre chacun de ces problèmes en regardant les questions très précises qui se posent et en voyant comment essayer d'y répondre. Par exemple, ce qui est très intéressant dans le cas de la Pologne, c'est que par rapport à cette indépendance de la justice et des lois qui ont été adoptées par le gouvernement polonais, c'est la Cour de justice qui a été amenée à trancher. La Cour de justice de Luxembourg, la Cour de justice européenne, qui a dit non, cette loi polonaise n'est pas acceptable et n'est pas conforme au droit européen tel que nous l'entendons. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que les autorités polonaises ont décidé de se soumettre à cette décision de la justice européenne. Il faut voir comment et quelles vont être les prochaines étapes en matière de lutte contre la corruption en Roumanie, mais il faut que là aussi le droit s'applique. Alors est-ce que ce sera la Cour de justice ? Est-ce que ce sera la Commission européenne qui demandera à ce qu'on lui rembourse les crédits européens qui ont été mal utilisés ? On va voir, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se placer d'un point de vue idéologique. Il me semble qu'il faut à chaque fois avancer de manière très concrète par rapport au droit. Et il faut essayer, tant qu'il est possible de le faire, d'utiliser tous les instruments, toutes les ressources du droit communautaire pour mettre ces gouvernements face à leurs responsabilités et face à leurs erreurs quand il y a violation du droit communautaire.
Alors pour les prochaines élections européennes qui auront lieu fin mai, le chef de la Ligue, Matteo Salvini, tente de fédérer toute l'extrême droite eurosceptique dans un grand parti qui est crédité d'ailleurs dans les sondages très très haut, hein, 150 sièges, deuxième parti après le grand parti populaire européen à droite, 180. Est-ce que vous croyez finalement qu'il serait capable de bloquer toute la machine et même le Parlement européen ?
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. La première, me semble-t-il, c'est est-ce que ce mouvement dit d'extrême droite ou des nationalistes, je ne sais pas comment on veut les appeler, est suffisamment uni pour constituer un seul grand groupe politique. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, ces différents partis politiques sont dans différents groupes parlementaires. Il faudrait donc qu'ils fassent un réel effort pour se rapprocher les uns des autres. Et ce qui frappe beaucoup, même dans cette réunion qu'on a eue récemment entre M. Salvini et ses homologues polonais, on voit que sur des sujets aussi importants que la relation avec la Russie ou l'immigration, ils ne sont pas forcément d'accord entre eux. Donc, est-ce qu'ils arriveront à constituer un seul groupe ? C'est possible, hein, mais c'est encore une question qui se pose. Et le deuxième point à partir de là, c'est que est-ce qu'ils arriveront à constituer une force politique qui pourrait être majoritaire ou être le premier groupe au sein du Parlement européen ? Là encore, c'est loin d'être le cas, et il faudra donc voir.
Alors justement, il y a un autre scénario qui circule. Hein. Matteo Salvini était justement à Varsovie cette semaine. Viktor Orban a souhaité bonne chance à toutes ces forces qu'il qualifie de forces anti-immigration. Donc on a ça d'un côté, mais de l'autre, le patron du PPE, Manfred Weber, l'allemand, qui fait des appels du pied à ces forces-là. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce cordon sanitaire entre la droite et l'extrême droite se brise ?
Oui, c'est un problème que l'on voit dans beaucoup d'États membres. On le voit actuellement en Suède, où la recherche d'un gouvernement et d'une nouvelle coalition pour gouverner en Suède se heurte précisément à cette question de savoir si on se rapproche de l'extrême droite ou pas, qui a fait un très bon score. On le voit en Andalousie, par exemple, où la même question s'est posée entre les démocrates chrétiens espagnols, le Parti populaire, et le nouveau parti d'extrême droite
qui ont fait alliance, et donc au gouvernement déjà une alliance entre Kurz en Autriche et le FPE.
Oui, mais d'abord, vous êtes dans une région en Espagne, et deuxièmement, le parti d'extrême droite a renoncé à un certain nombre de ses revendications. Donc à chaque fois, il faut regarder très précisément comment les choses évoluent. La question du groupe parlementaire des démocrates chrétiens, c'est que bien évidemment, si Orban et ses députés hongrois quittent le parti, ils lui font perdre en effet une partie de sa force politique. N'oubliez pas que c'est actuellement le groupe politique le plus important au Parlement européen. Donc ils essayent de voir comment ils peuvent essayer de limiter les dégâts avec un départ de ces députés.
Quel jeu il joue pour vous, Viktor Orban, aujourd'hui ?
Il faudrait lui poser la question d'abord, plus à lui plus qu'à moi. Je crois qu'il essaye de tirer le meilleur parti possible de sa position justement un peu charnière, soit au sein du groupe des démocrates chrétiens, soit au sein d'un nouveau groupe de l'extrême droite qui pourrait se constituer, pour voir quel est le meilleur parti pour lui et là où ses intérêts seront les plus valorisés.
Ou même les rapprocher,
ça il faut voir. N'oubliez pas quand même, et ça c'est un point important, c'est que quand on fait le décompte de cette extrême droite, jusqu'à maintenant, on tenait compte des députés britanniques, notamment du groupe dit UKIP. Ceux-là, normalement, ne vont plus être là dans le nouveau Parlement européen. Or, c'est plus d'une trentaine de sièges, quand même, qui vont désormais manquer à cette droite extrême dont on parle souvent. Donc, il faut prendre ça aussi en compte dans les calculs.
Alors, justement, rappelez que vous aviez soutenu Emmanuel Macron en 2017 dans le match qu'il veut imposer entre populistes et progressistes. Les progressistes ne sont pas les plus audibles, loin de là. Pourquoi ?
Parce que je crois que c'est Tocqueville qui disait qu'il est toujours plus simple, il est toujours plus facile de défendre une idée simple, même si elle n'est pas exacte. Donc il y a ça qui joue. Deuxièmement, me semble-t-il, en tout cas c'est mon sentiment personnel, vouloir présenter le débat européen uniquement en termes de progressiste comme nationaliste, c'est prendre un immense risque d'avoir un débat simpliste et simplifié à l'extrême. Alors qu'à mon avis, si on veut présenter une réponse intéressante à ce que disent les adversaires de l'Europe, les eurosceptiques ou les nationalistes, il faut pouvoir présenter des choses concrètes, montrer en quoi l'Europe doit agir pour mieux protéger, on en parle beaucoup, pour mieux protéger les peuples européens. Et pour ça, il faut avoir des propositions qui soient concrètes sur des points précis, l'immigration, la défense de la zone euro, l'écologie, le commerce international, etc., et qu'il faut, plutôt que d'avoir une présentation très caricaturale, je suis pour l'Europe, les autres sont contre, il faut entrer dans le détail et défendre
des programmes finalisés. Lui-même, il est très affaibli, Emmanuel Macron, par les gilets jaunes, vous trouvez ?
Alors, ça, je ne sais pas, en France,
en
c'est
tant que
un
grand
autre.
Européen.
Mais les Européens, bien évidemment, observent les difficultés. C'est d'ailleurs un élément qu'on ne souligne pas assez, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, la politique intérieure de chacun des États membres est devenue vraiment un élément essentiel dans le débat politique
européen. C'est particulièrement le cas pour ce sujet des gilets jaunes. On a vu que le gouvernement italien, enfin, que ce soit le cas du mouvement 5 étoiles ou de la Ligue, a ouvertement soutenu les gilets jaunes. Alors, c'est une première. Est-ce que vous aussi, vous jugeriez, comme d'autres diplomates, que c'est une forme de provocation?
Les déclarations italiennes sont quand même une forme d'ingérence qu'on n'en a pas souvent vue dans les affaires européennes. Mais moi, je voudrais parler d'autre chose qui me paraît plus intéressant. C'est que depuis 2 ou 3 ans, chacune des grandes élections en Europe, l'élection d'Emmanuel Macron, des élections législatives aux Pays-Bas en 2017, l'élection allemande, l'élection suédoise, etc., ont été des consultations nationales qui ont été observées dans tout le reste de l'Europe et considérées comme des élections importantes qui pouvaient avoir un impact, un enjeu, une influence sur les affaires européennes dans leur ensemble. Et ça, il me semble que c'est une évolution qu'on ne connaissait pas dans le passé et qui fait que quand on parle de déficit démocratique, et c'est vrai qu'il y a encore un déficit démocratique en Europe, il faut quand même bien voir qu'il y a aujourd'hui un espace politique européen qui commence à se développer comme ce n'était pas le cas avant. Et ça, je trouve que c'est intéressant et plutôt positif pour l'avenir de l'Europe.
Alors Pierre Vimon, on passe à un dossier que vous avez beaucoup suivi, le dossier du Brexit. Rien ne va plus, véritablement. La date du divorce effectif, le 29 mars 2019, se rapproche dangereusement. Le scénario d'un no deal, d'une sortie sans accord, plane toujours, à tel point que les Britanniques ont testé le 7 janvier dernier une hypothèse grandeur nature avec un balai de camions qui serait contrôlé par de futurs douaniers, avec un résultat assez inquiétant, comme vous allez le constater à travers ce reportage.
De longues files de camions bloquées à cause des douanes à Douvres. Le cauchemar du gouvernement britannique si aucun accord n'émerge sur le Brexit. Un exercice grandeur nature, une sorte de répétition générale avant un éventuel chaos. Ce matin-là, 89 chauffeurs de camions sont d'abord venus se garer sur cette piste d'aéroport désaffectée à 30 km de Douvres. Elle servira d'immense parking de 6000 places pour patienter pendant des heures, voire des jours, si les contrôles douaniers sont rétablis entre la France et la Grande-Bretagne. Les camions ont ensuite pris la route qui mène jusqu'au port de Douvres. Objectif, savoir s'il faut s'attendre à d'immenses embouteillages après le Brexit, comme l'explique le responsable du transport routier du Kent, Toby Howe.
L'idée, c'est de comprendre l'impact sur la circulation et savoir s'il faut libérer plus ou moins de camions en même temps.
Car chaque jour à Douvres, ce sont plus de 10 000 camions qui entrent ou sortent du territoire britannique. Les formalités prennent aujourd'hui en moyenne 2 minutes. Selon les calculs du port, si après le Brexit, ces formalités ne devaient durer que 2 minutes de plus, cela créerait chaque jour 27 km de bouchons de chaque côté de la Manche. Avec un effet domino pour toutes les usines, selon David Zacchio, directeur des opérations de transport routier Alcaline.
Pour nos clients, si la chaîne de production s'arrête, ça coûte 35 000 euros la minute. Donc imaginez le coût pour une chaîne de production si elle s'arrête plusieurs heures. On parle de millions.
Cet exercice intervient une semaine avant le vote décisif au Parlement sur le Brexit négocié par Theresa May à Bruxelles. L'opposition dénonce un gaspillage financier inutile. Chaque chauffeur routier pour cet exercice de quelques heures a été payé 610 euros.
Des embouteillages géants, alors une économie qui tourne au ralenti. Voilà quelles pourraient être les conséquences d'un non-accord assez désastreux, de part et d'autre de la Manche d'ailleurs, parce qu'on souligne pas forcément ces deux côtés. Hein.
Vous avez tout à fait raison, on a fait un peu les mêmes analyses du côté de Calais, du côté français, et on s'aperçoit que les mêmes ralentissements provoqueront les mêmes problèmes, tout à fait.
Alors, mardi prochain, Theresa May soumet ce fameux accord de sortie négocié avec l'Union européenne. Selon les observateurs, elle a quand même très peu de chances de faire valider cet accord. Comment vous, vous voyez la suite?
C'est-à-dire que la situation qui se présente en Grande-Bretagne est compliquée à la fois pour Mme May et également pour l'opposition. Parce qu'au fond, chacun des deux grands partis, le parti conservateur d'un côté et le parti travailliste de l'autre, sont profondément divisés par rapport à cette question du Brexit. Et dès lors, on voit bien que soit on ne veut pas de l'accord qu'a négocié Madame Theresa May, mais on n'est pas prêt à en accepter la conséquence qui est l'absence d'accord et le chaos. Et à ce moment-là, quand on dit il faudrait peut-être un nouveau référendum, les gens n'en veulent pas non plus. Donc on tourne en rond. Et du côté des travaillistes, vous avez un peu le même problème parce qu'ils sont tout à fait décidés à voter contre l'accord négocié par Mme May, mais hésitent entre demander un nouveau référendum ou demander des élections générales. Et donc vous êtes dans une situation à l'heure actuelle qui est totalement bloquée. Et
d'autant que certains parlent de repousser la date finalement du divorce du 29 mars à plus tard, ce qui règle pas un certain nombre de problèmes. Il y a des élections européennes en effet fin mai et il faut que les députés britanniques y participent si jamais cette date était repoussée. Bref, institutionnellement, ça risque d'être un casse-tête terrible.
Ça peut être un casse-tête si les Britanniques décident de demander un délai supplémentaire pour les raisons que vous avez indiquées. On peut aussi très bien imaginer qu'après ce vote qui sera intervenu et qui risque d'être négatif, la Première ministre décide pour le moment d'attendre et de voir, à mesure qu'on se rapproche de l'échéance du 29 mars, si finalement il n'y aura pas un retournement de situation et si un certain nombre de députés ne finiront pas par accepter l'idée que cet accord est nécessaire. Ce qu'il faut voir aussi, c'est du côté de Bruxelles, si les partenaires de la Grande-Bretagne, les 27 autres membres de l'Union européenne, n'essaieront pas de faire un ou deux gestes pour essayer de lui faciliter la tâche. Donc on va voir, après le vote de la semaine prochaine, comment les choses vont évoluer.
Pendant ce temps-là, l'Union européenne a énormément de dossiers sur la table. On pense particulièrement à celui de la migration. Vous êtes beaucoup vous-même impliqué sur cette thématique. Quand vous voyez aujourd'hui des bateaux continuent à errer sur la Méditerranée pendant que l'Italie, Malte refusent de les accueillir, vous pensez quoi?
Je pense que ce dossier, qui déjà en soi est compliqué sur le plan technique, est devenu encore plus compliqué parce qu'il est exploité de manière politique par un certain nombre d'États membres qui ont vu tout l'intérêt qu'ils pouvaient gagner à continuer à prendre des positions très drastiques vis-à-vis de l'immigration. Et ma crainte, c'est que d'ici aux élections européennes, il soit très difficile de ramener tout le monde à la raison et de les mettre autour de la table pour trouver des accords. Mais là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire face aux nationalistes et à ceux qui veulent complètement fermer les frontières et ne plus entendre parler d'immigration, l'intérêt de ceux qui sont de l'autre côté politique sur ce débat, c'est précisément d'essayer d'avancer un certain nombre de propositions aussi concrètes que possible pour montrer qu'il y a une porte de sortie. Et il y a une porte de sortie.
Si justement, qu'est-ce que concrètement on peut expliquer de positif en ce début d'année qui a été acquis par l'Union européenne?
Je reviens des États-Unis. Je suis extrêmement frappé combien toutes les entreprises américaines qui travaillent en Europe sont en train de s'adapter à la réglementation européenne en matière de protection des données personnelles, qui est une innovation très importante par rapport à tout ce qui se fait dans le monde entier, à un moment où toute la question des données personnelles dans l'industrie digitale, cette question-là est devenue essentielle. Et vous entendez le patron d'Apple qui dit que cette réglementation européenne est un modèle pour nous tous. Donc on voit que l'Europe peut de temps en temps montrer l'exemple et être celui derrière lequel les autres se rangent.
Merci Pierre Vimont d'avoir été notre invité aujourd'hui.
Merci à nos téléspectateurs et auditeurs. Restez sur RFI et France 24. L'actualité continue.
À très bientôt.